Vous écoutez RTL. RTL. RTL.
Jusqu'à 22h.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Bonsoir à tous et bonsoir à vous, Thomas.
Bonsoir Sidonie et salut aux curieux.
Jusqu'à 22h, on va titiller votre curiosité. On va vous raconter des histoires extraordinaires. On va répondre à toutes les questions que vous vous posez et puis même à toutes celles que vous ne vous posez pas. C'est possible.
J'espère bien. Au programme ce soir, les légendes de Noël, les trolls, les lutins, les fées et les sorcières. Ils sont pas tous très gentils, vous verrez. Et puis on embarque sur le Gange, le fleuve sacré des hindous. Vous allez voir, on va croiser là aussi des mauvais sorts, des rituels impressionnants et puis des expériences parfois irrationnelles.
Max et Travaux, créateur d'idées depuis 1920.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Max et Travaux, pour n'en faire qu'à sa tête.
Je te dédie ces mots.
20h-22h, Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
L'histoire des femmes à travers l'un de leurs magazines préférés, Modes et Travaux. C'est ambitieux, mais c'est ce que nous allons vous raconter ce soir avec Patricia Wagner, la directrice du magazine. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Le premier Modes et Travaux, il est publié en 1919. Qui a eu l'idée de créer ce magazine ?
Alors, ça se passe le 15 novembre 1919. Donc, c'est un monsieur qui s'appelle Édouard Boucherit qui a, en fait, baigné dans la broderie, dans la couture, puisque sa maman, en fait, avait une petite mercerie à Levallois-Perret. Et donc, pour faire plaisir à sa maman, mais à sa femme aussi, il a décidé de se lancer dans l'édition et notamment dans la presse en créant du magazine comme La Broderie Moderne. Et puis, donc, Modes et Travaux, donc, qui est apparu, donc, le 15 novembre 1919.
Et qu'est-ce qu'on trouve dans ce mode et dans ce Modes et Travaux? Quel est le principe du magazine, finalement? C'est de la mode et des travaux pratiques?
Alors, ça a évolué évidemment avec la société. Bon, mais au début, c'était vraiment de répondre aux attentes de la femme d'après-guerre. Donc, tout d'abord, de répondre à cette première attente qui était le Graal, c'était l'élégance absolue. Et puis, de répondre aussi à, je dirais, aux problématiques du quotidien. Donc, la cuisine, la femme au foyer, les enfants, le mari, bien sûr, faut pas l'oublier, n'est-ce pas? Puisque Thomas, tout à l'heure, nous a fait...
J'espère bien.
Voilà, donc c'était vraiment la vie quotidienne alliée à l'élégance, le chic parisien.
À qui s'adresse c'est-il ce premier Modes et Travaux ou ces premiers numéros de Modes et Travaux à toutes les femmes ou à une certaine catégorie de la population?
Alors on était plutôt, oui, à une catégorie je dirais plutôt élevée de la population, donc c'était pas aujourd'hui Modes et Travaux est un magazine qui est un petit peu plus populaire, alors qu'à l'époque c'était vraiment quelque chose, parce qu'il y avait beaucoup de couturiers qui publiaient donc leur patron et leur, donc on s'adressait à une population un petit peu plus, je dirais, chic, élégante et très parisienne.
Et il y avait aussi une boutique Modes et Travaux, c'est ça, où on pouvait trouver, par exemple, alors, tout le matériel dont on parle.
Tout à fait. Alors, ce qui est très drôle, si vous avez l'occasion, cette boutique existe encore à Paris aujourd'hui, au 10 rue de la Pépinière.
Et dans quel arrondissement?
C'est juste à côté de la gare Saint-Lazare. Mmh. Vous avez encore le logo dessus, Modes et Travaux. Et donc, en 1919, donc, Édouard Boucherit, avec toutes ses brodeuses, couturières, évidemment, la rédaction, la direction, le magasin s'installe donc dans cette adresse, 10 rue de la Pépinière. Aujourd'hui, on y trouve, tous les accessoires de couture, les tissus, les aiguilles,
un magasin de broderie.
C'est un magasin de couture. Ouais. On peut y trouver aussi des ateliers couture, puisque la couture est extrêmement en vogue en ce moment.
Mais c'était pas le magasin de sa maman.
Non, c'était pas du tout le magasin. Non, pas du tout. Non. C'est lui qui s'est installé là-bas.
Donc il avait créé en fait d'abord le magazine, puis la boutique, c'est ça, Modes et Travaux
tout à
Paris.
Qu'est-ce qu'il y a à la une du premier Modes et Travaux?
Alors à la une, bon, évidemment, il n'y a pas de photo. Hein, on est en 1919, donc c'est une une qui est illustrée. Donc vous avez à gauche une brodeuse, à droite une couturière, et puis au milieu vous avez donc une femme très élégante. Alors c'est rigolo parce qu'il fait froid aujourd'hui, donc quand vous voyez la couverture, vous dites que ce serait bien d'avoir un petit manteau de bison avec nous. Et donc cette femme très élégante avec un manteau de laine et du vison donc autour du cou. Par contre, pas de titre comme on peut le faire aujourd'hui, donc pas de titraille, pas d'accroche. Et puis après on feuillette le magazine et on rentre donc dans le vif du sujet.
Modes et Travaux pendant un siècle presque a donné une image, a renvoyé une image à la femme. Quelle est la femme dont parle Modes et Travaux en 1919? C'est quoi son modèle? Quel est le type de femme que ce magazine met en valeur et en lumière.
C'est une femme qui est très chic, modeuse, on dirait modeuse aujourd'hui, mais qui reste très attentive aux finances de son ménage, évidemment, qui aime la couture, qui aime le tricot et qui est très, sur le quotidien, sur les problématiques du quotidien, de la cuisine, de la maison, des enfants.
Moi, je suis un peu lent à la... Je suis un garçon, c'est pour ça, oui. Voilà. Et donc, j'ai enfin trouvé la une du premier Modes et Travaux. Voilà, effectivement, pour ceux qui nous suivent sur RTL.fr, vous pouvez la voir tout de suite. C'était une femme bourgeoise, hein, effectivement, c'est ce que vous nous dites. Il fallait avoir les moyens, en fait.
Un petit peu, oui. Surtout pour réaliser les patrons, qui étaient donc des patrons de grands couturiers.
Vous publiez aux éditions Solar Modes et Travaux une histoire de la femme française avec Elodie Lantelme.
Il y avait de la publicité.
C'est un ouvrage. Un ouvrage incroyable parce que vraiment, il y a toute l'histoire évidemment du magazine, l'histoire des femmes à travers ce magazine et beaucoup de reproductions de couvertures et notamment, et ça on s'en régale, de publicité, Thomas.
Alors qu'est-ce qu'il y avait comme publicité?
Alors, publicité, donc on va peut-être parler aux hommes, notamment des publicités pour avoir des beaux seins. Donc il fallait que les seins soient très fermes, de taille moyenne, d'un blanc nacré. Donc vous avez des pubs pour avoir des jolis seins, un joli décolleté.
Ça c'est dans les années 20, c'est ça?
Ça c'est dans les années 20.
Il y a une jolie pub. Alors juste, je la lis, c'est belle poitrine, seins développés, raffermis, reconstitués par les pilules orientales. Ça, c'est une petite pub qu'on découvre dans
votre
livre.
Par les pilules orientales.
Oui.
Alors, vous avez aussi le thé mexicain à côté, justement.
C'est pour les seins aussi.
Non, là, c'est pour avoir.
Ça a été facile, pardon.
Non, là, c'est pour avoir une jolie silhouette. Donc, il fallait boire du thé mexicain. Il y en a une aussi qui est très drôle, c'est la crème épilatoire d'Orin. Donc, je la trouve extraordinaire parce que dans cette publicité, on dit c'est la seule crème qui ne laisse pas d'odeur. Et je trouve que donc même en 2014, je voudrais encore trouver la crème épilatoire qui laisse pas d'odeur fois qu'on s'est épilé.
Puis elle avait un nom assez formidable, cette crème, c'est la crème slip.
Oui.
Épilatoire slip, voilà.
C'est peut-être pour les hommes. C'était pour les hommes, en fait,
donc,
finalement.
Ce soir, avec Modes et Travaux, on s'adresse aux filles et aux garçons.
On continue de découvrir Modes et Travaux depuis 1919. Ce magazine accompagne la vie des femmes. On feuillette ce soir ses tout premiers numéros sur RTL.
Curieuse, curieux, vous êtes chez vous sur RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France. RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Comment la vie des femmes a-t-elle changé depuis un siècle? C'est ce que l'on découvre ce soir à travers les pages du plus ancien magazine féminin français, Modes et Travaux, et grâce à son actuelle directrice, Patricia Wagner, avec Julien Clerc en fond sonore. C'est quand même sympa. Entre les deux guerres, c'est l'explosion du glamour, Patricia Wagner. Modes et Travaux, évidemment, suit cette évolution, cette révolution, mais c'est quoi le glamour?
Alors, c'est pas évident, je trouve, de trouver une vraie définition du glamour. Finalement, c'est quoi? C'est du charme allié à la séduction avec une grande touche de sensualité. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on est à la fin du premier conflit mondial, donc la France est quand même exsangue, 600 000 veuves. Ensuite, il y a eu la grippe espagnole. Donc, les femmes, elles ont envie de vivre. Pourquoi elles ont envie de vivre? Parce que pendant la guerre, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont travaillé dans les usines, beaucoup. Dans les champs, énormément. Donc, elles ont revêtu aussi des vêtements d'hommes. Donc, après le premier conflit mondial, elles ont envie justement de se libérer, de vivre. Et du coup, on arrive dans ce qu'on appelle un peu les années folles. Et ce glamour, donc le maquillage, l'importance de la coiffure, on exprime toute sa féminité après toutes ces années très difficiles finalement.
Et puis l'actrice d'Hollywood, par exemple, devient un peu le nouveau modèle de la féminité.
Oui, ça c'est un peu plus tard, complètement. Oui, ça devient le nouveau modèle. Et après, si on va plus loin, évidemment, on va parler après de Marilyn Monroe, de Brigitte Bardot, mais aussi des Josephine Baker. Donc, qui commence à se dénuder aussi un petit peu. Ça, c'était quelque chose d'assez nouveau. Donc, c'est tout ce renouveau, en fait, entre la première et la deuxième guerre, ces années un peu de folie qui font que, voilà, les femmes deviennent très glamour. Et non seulement, il y a aussi autre chose, c'est que on commence à parler du sport. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très fort. On trouve dans Modes et Travaux de l'époque, et moi, ça me fait beaucoup rire, parce que je pars au ski dans 15 jours. Et on trouve Oui, mais il n'y a pas de neige, Thomas, donc tout va bien.
Dommage.
À moins que vous partez à la montagne.
Il reste 15 jours.
Faire une semaine.
On va faire la danse de la neige.
Une semaine de rando au mois de décembre, ça va être chouette.
D'accord.
Mais habillée pour... comment, Patricia?
Mais habillée comment? Avec un patron de mode des travaux de l'époque, certainement.
Vous allez être sexy. Si
très, très sexy et très glamour. Mais pour revenir à notre histoire, 1924, donc c'est les Jeux Olympiques de Chamonix. Le ski a un essor incroyable. Et dans mode des travaux, on trouve des exercices, notamment pour se préparer à la semaine de ski. On joue au tennis, on commence à jouer au tennis aussi. On parle de Suzanne Lenglen, on parle de Jean Patou, le couturier qui lui se met vraiment dans le sportswear. Donc c'est des voilà, on sort un peu des silhouettes tristes de la, j'ai envie de dire, de la Première Guerre mondiale pour aussi aborder le sport et le loisir de manière générale.
Et c'est aussi entre les deux guerres que Modes et Travaux s'enrichit de brèves d'actualité, mais pas n'importe quelle actualité quand même.
Alors oui, ça c'est assez rigolo. Je crois que c'est en 1923, il me semble, on trouve une brève sur la femme de Trotsky. Et c'est vraiment sous le mode people, quoi. Enfin, un
c'est
peu
le,
comme,
le potin.
Comme. Voilà, c'est vraiment le potin. C'est, voilà, on décrit la femme de Trotsky, donc dans Modes et Travaux.
Et elle est canon ou pas?
Elle est moyennement canon, on va dire. Moyennement canon. Mais c'est vrai aussi que Modes et Travaux traitait aussi de l'actualité. Par exemple, il y avait le Grand Salon des Arts Décoratifs, donc qui était un événement incroyable à Paris, qui a drainé 6 millions de personnes. Et dans le magazine, on en parle, en fait. Donc c'était vraiment un magazine pour. Très, très, extrêmement ouvert.
Oui, en feuilletant ce livre, on feuillette aussi l'histoire de France, évidemment. On disait que Modes et Travaux a accompagné des changements, a accompagné les évolutions dans la vie des femmes, les bouleversements. Mais il y a quand même eu aussi un peu de résistance à certaines modes. Par exemple, j'ai découvert ça dans le livre, aux cheveux courts. Qu'est-ce
Mais oui, parce que donc pendant les années folles, il y a aussi cette mode des cheveux courts. Et ce qui est extraordinaire de ce magazine, et je trouve qu'on essaye encore de, et on arrive à le garder aujourd'hui, c'est de dire aux femmes, restez vous-même. Même s'il y a des canons de beauté très importants, même s'il y a des impératifs, même si on vous dit, il faut être mince, il faut être belle, il faut être... Restez vous-même, c'est quand même la chose la plus importante. Et à l'époque déjà, Édouard Boucheri, donc, qui est resté à la tête du journal jusqu'en 1973, donc il avait 102 ans, donc il faut quand même imaginer que cet homme-là, il a fait toute l'histoire du magazine, et c'était le seul homme d'ailleurs qui a géré le magazine, après ça a été des femmes, et ben je ne sais plus ce que je voulais dire, parce que du coup, je me suis perdue.
Sur le fait d'accompagner les
modes.
Ah
oui, les cheveux courts, voilà. Donc, et lui, il disait, les cheveux courts, c'est super pour le sport. Jouer au tennis, génial. Faites du ski, c'est génial avec des cheveux courts. Mais si vous voulez vous mettre en robe longue, les cheveux courts, c'est juste très, 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 très moche, quoi. C'est même vulgaire. Enfin, il parlait de vulgarité.
Il était un peu macho comme les hommes de l'époque, le patron de Modes et Travaux.
Non, pas du tout. Parce
paternaliste,
que,
plutôt.
Oui,
non,
très paternaliste. D'ailleurs, à l'époque, dans sa boutique et dans la rédaction, les femmes n'avaient pas le droit de porter le pantalon. C'était totalement interdit.
Alors, Modes et Travaux parlait des femmes modernes, des femmes glamour, des femmes qui se maquillaient, mais aussi des femmes d'intérieur. On louait, par exemple, les arts ménagers. On va en parler avec vous, Patricia Wagner, dans un instant, sur RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
Ce soir, on traverse 100 ans de la vie des femmes en feuilletant le magazine féminin Modes et Travaux, né en 1919. Il a tout connu, toutes les guerres, tous les combats, toutes les révolutions même. On en parle avec Patricia Wagner, la directrice actuelle du magazine. Quels sont les premiers canons de beauté, finalement, que reflètent Modes et Travaux, les premiers canons de beauté de la femme?
La poitrine, dont on a un petit peu parlé tout à l'heure, donc très importante.
Blanche, vraiment, c'était ronde, parfaite.
Voilà, blanche, ronde, nacrée. Alors, la poitrine nacrée, j'aimerais bien savoir ce que c'est. Mais enfin, bon, en tout cas, poitrine nacrée.
Moi, je prends des notes.
Oui, non, mais c'est important. C'est important. Ce qui je trouve très rigolo, c'est qu'on trouve donc des conseils pour faire du bien, enfin pour rehausser la poitrine, et on parle notamment de la fameuse douche froide. Alors c'est une recette de, enfin moi je sais que ma mère m'a toujours dit qu'il faut passer les seins sous la douche froide parce que ça les garde toniques, fermes, et on le trouve déjà tous les matins.
Pour les pectoraux ça marche pas.
Essayez Thomas, ça peut le faire. Je pense que ça peut le faire.
On aime les femmes minces
ouais, évidemment. Et donc là c'est pareil, tous ces canons de beauté par contre du 19e siècle, donc on aimait bien les femmes en chair, sont complètement bouleversées, puisque là on parle des femmes minces. Et là encore, le directeur de la rédaction, donc de l'époque, Édouard Boucheri, dit bien aux femmes, les hommes finalement préfèrent quand même les femmes bien en chair. Et je crois qu'aujourd'hui ça n'a pas changé.
Alors, on avance un peu dans le temps. Après la Seconde Guerre mondiale, on commence à voir apparaître dans les années 50, 60, des publicités, des films où les femmes vont se dénuder un peu plus. Les icônes, on en parlait tout à l'heure, ça va être Marilyn Monroe, ça va être Brigitte Bardot. Comment Modes et Travaux s'accommode de cette évolution ?
Alors, Modes et Travaux a toujours suivi le mouvement, quel qu'il soit, mais avec un leitmotiv, je dirais, c'est encore une fois rester soi-même. Et même dans les années 68, où c'était un peu compliqué, hein, puisque voilà, les jeunes descendaient dans la rue, les barricades, etc. Et c'était certainement compliqué pour ce magazine de se placer un petit peu par rapport à ça. Ce qui était génial, c'est que par exemple en 68, Édouard Boucherit dit, ce qui est important, c'est qu'on garde le lien avec les jeunes et que les parents gardent le lien avec les jeunes. C'est le seul moyen de s'en sortir. Donc il a toujours trouvé des pirouettes, même s'il n'était pas fondamentalement d'accord avec ce qui se passait, pour voilà, continuer son petit bonhomme de chemin. Et aussi, dans des années un peu pareil, un peu folles, il disait nous, Modes et Travaux, on garde le bon ton. C'est le bon ton, en fait, de la France, c'est Modes et Travaux, finalement. Même s'il y a des extrêmes à droite, à gauche, etc. Mais le bon ton, c'est Modes et Travaux.
Dans l'après-Deuxième Guerre mondiale, donc la mode est aux femmes qui se dénudent, qui sont un peu en chair, quand même, qui sont sexy, les fameuses icônes glamour. Mais en parallèle aussi, c'est l'avènement de la reine du foyer. C'est quoi la reine du foyer ? C'est une femme qui fait la cuisine, le ménage, qui s'occupe de tout, toujours à la maison quand même, et qui rêve d'être une star et d'être libre un peu.
Alors, il faut savoir déjà que dans les années 50, la femme est revenue à la maison. Parce que on l'a aussi accusée justement de ce problème de natalité qu'il y avait en France. Donc, on a dit aux femmes, revenez à la maison.
Il n'y a pas assez d'enfants.
Il n'y a pas assez d'enfants, donc il faut revenir impérativement à la maison. Donc, on se retrouve un peu avec cette femme un peu nunuche, quelque part, hein, des années 50. Bon, alors, il y a Marilyn Monroe, tout ça, ok, super, mais la femme, entre guillemets, française, elle est un peu nunuche. Mais pour Modes et Travaux, elle doit rester élégante, débrouillarde, curieuse, très maternelle, évidemment, bonne épouse, dotée d'un super sens pratique. Et non, mais ça, c'est très important.
Je prends des notes, on fait des choses.
Et on les met en valeur parce qu'on dit, finalement, ces femmes-là, elles mènent absolument tout de front. Et c'est vrai. Et finalement, aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup changé non plus, parce que la femme française, aujourd'hui, est un peu une icône dans le monde pour cette incroyable force qu'elle a de mener justement tous les combats de front.
Et le magazine Modes et Travaux donne des conseils aux femmes justement pour tout mener de front. Il essaye de faciliter leur existence.
Tout à fait. Alors on a, je ne sais plus dans quelle année, mais on a l'apparition, je crois, dans les années 50 des feuillets ménagers. Donc c'était au sein du magazine. Il y avait un petit cahier pratique où on vous donnait les menus de la quinzaine. Alors ce qui est drôle, c'est que dans les années après-guerre, les menus de la quinzaine, je vous dis pas, si on mange ça aujourd'hui, on pèserait tous 150 kilos, puisque forcément c'était des menus très roboratifs. On est dans l'après-guerre, donc voilà, il fallait manger bien beaucoup. Dans les années 50, ça change un petit peu, donc on vous donne plutôt des conseils pour cuisiner en accord avec la saison, ce qui est très à la mode aujourd'hui aussi.
Mais est-ce que les luttes féministes, Modes et Travaux les a accompagnés spontanément? J'ai plutôt cité d'autres magazines féminins. Est-ce que Modes et Travaux n'était pas un peu à la traîne sur
oui,
ces combats-là?
Oui, il a été à la traîne, mais parce qu'en fait, il les a pas, il les a entre guillemets suivis de loin. Contrairement à d'autres magazines qui ont vraiment incarné ces luttes féministes. Modes et Travaux est resté toujours un petit peu en retrait avec, j'ai envie de dire, quand même ce cœur de la France qui est voilà, la famille, les valeurs entre guillemets un peu traditionnelles.
Puis ça adressait peut-être plus aux mères des féministes qu'aux féministes aussi.
Certainement, c'est pour ça aussi qu'en 68 justement on disait retrouver le lien familial, c'est le seul moyen pour garder, pour qu'on garde une société entre guillemets qui fonctionne. Donc on est toujours dans des valeurs je dirais familiales, traditionnelles, mais avec une ouverture vers l'extérieur.
D'ailleurs, on conseille par exemple à la femme de conduire. Ça, c'est un symbole d'indépendance. Femme au foyer, femme parfaite, femme glamour, femme indépendante. Modes et Travaux a traversé toutes les décennies de la vie des femmes jusqu'à aujourd'hui. Et maintenant, il ressemble à quoi ce magazine? Que nous raconte-t-il? A tout de suite sur RTL.
Vous écoutez RTL.
Modes et Travaux, dans le train de la Cipalaiso.
20h-22h, Thomas Hugues, Sidonie Bonnet.
Un peu de Shabadabada, tiens. 100 ans dans la vie des femmes à travers le plus ancien des magazines féminins. Patricia Wagner, vous êtes la directrice de Modes et Travaux et vous publiez un très beau livre qui retrace cette histoire de la femme française. C'est publié chez Solar. Et alors, pendant la coupure, là, vous nous disiez, mais la voiture et Modes et Travaux, c'est toute une histoire. Pourquoi ?
Alors, c'est toute une histoire parce que Édouard Boucherit était un passionné de voiture. Donc ça, c'est important de le souligner. En 1928, déjà, on trouve des couvertures.
Donc Édouard Boucherit, le fondateur du magazine.
Pardon, bien sûr. On trouve déjà des couvertures. On voit des femmes adossées à des voitures. Et on parle aussi de la manière de conduire des femmes. Donc, je ne veux pas me faire des amis ce soir au niveau des auditeurs, j'espère. Mais en tout cas, déjà, on disait que on admire leur douceur, on apprécie leur patience. Et ce qu'on appelait à l'époque le professeur d'automobile. Donc, c'est ce qui correspond aujourd'hui à notre moniteur
d'auto-école.
Ben là, c'était le professeur d'automobile. Et ben, il disait que les femmes conduisaient de manière absolument merveilleuse.
Je crois que c'est ce que les assureurs disent aussi, d'ailleurs, même si ça me fait un peu mal de l'admettre. Dans les années 80, une femme va révolutionner le magazine. C'est la nouvelle rédactrice en chef. Elle s'appelle Dominique Roche. Qu'est-ce qu'elle change? Qu'est-ce qu'elle insuffle?
Alors, déjà, elle arrive sur cette période des années 80 où la presse féminine, quelque part, explose. Donc, forcément, Modes et Travaux commence à avoir vraiment des concurrents. Il faut savoir qu'en 68, on vendait 2 millions d'exemplaires, donc c'était incroyable dans les années 70.
Aujourd'hui, c'est quoi, 4 fois
450,
moins
450 000. Enfin, pas 450, ça fait pas beaucoup. C'est juste les gens qui travaillent chez RTL, c'est tout. C'est les seuls abonnés, c'est génial. Donc, Dominique Roche, elle arrive donc à la tête de Modes et Travaux et elle révolutionne absolument tout. Elle voulait créer un magazine vraiment avec beaucoup de peps. Elle a commencé à lancer des hors-séries, ce qui se faisait pas trop à l'époque, donc des numéros spéciaux. Elle a développé évidemment toutes les rubriques. Elle a ramené un petit peu de couture dans le magazine. Elle a vraiment imposé son style. Et ce qui est drôle, c'est que cette femme, elle était blonde et elle ne voulait s'entourer que des femmes blondes dans la rédaction.
Allons bon.
Et donc, je sais pas. Et donc,
c'est à ce moment-là que vous êtes arrivée, Patricia
pas
Wagner.
Du tout, pas non.
Ceux qui ne nous regardent pas sur RTL.fr, Patricia Wagner est blonde.
Voilà. Donc, ce qui est très drôle, c'est qu'en discutant avec une de mes collègues de bureau qui a travaillé avec Dominique Roche, puisque dans mon équipe, il y a beaucoup de gens qui sont là depuis longtemps et qui connaissent ce magazine par cœur, elle m'a dit j'ai dû me teindre les cheveux quand même pour être
incroyable.
Sûre de rester.
Pourquoi? Parce que le blond, c'était la couleur de cheveux des années 80?
Je ne sais pas, certainement. Mais en tout cas, elle voulait des blondes, voilà, à la tête. Donc
elle est comment, la femme des années 80, femme jusqu'au bout des seins, comme dirait Sardou? C'est
non.
Ma blague pourrie du soir.
Ouais, alors ça, c'est vraiment pourri.
Non.
Merci de cette solidarité, Sidonie. Donc, elle est comment, la femme des années 80?
Bah, la femme des années 80, bah, vous connaissez toutes les chansons. Hein.
T'as le look coco.
Voilà, t'as le look coco. Femme des années 80, bien sûr. Bah, la femme des années 80, ce qui est génial, bon, elle travaille donc beaucoup, évidemment. Elle veut des enfants, mais elle décide quand elle le veut, évidemment. Elle est ultra féminine, elle est libérée. Bon, après, au niveau de la mode, on peut en discuter.
Hein. Oh, oui, on peut en discuter. Moi, je me rappelle de ma maman, donc quand j'étais petite, elle avait des petits blousons bouffants, des chemisiers qu'elle faisait blouser, on disait ça à l'époque. Faire blouser son chemisier, vous voyez, pour qu'il sorte du jean.
Et aussi les vestes avec des épaulettes.
Quelle horreur. Enfin, quelle horreur, non, vraiment, quelle horreur.
Et des couleurs, de sacrées couleurs.
Et des sacrées couleurs, évidemment, aussi l'imprimé léopard, hein, ça fait aussi partie des années.
Qui revient régulièrement.
Voilà, qui revient régulièrement. Et puis aussi, très important, les années 80, c'est aussi le culte du corps, qu'on avait un petit peu oublié dans les années 50, justement, parce qu'on était plus avec des femmes bien en chair, enfin, un peu rondes. Là, dans les années 80, on parle plus que de bodybuilding, aerobic, je sais pas si vous vous en souvenez.
Bien sûr.
De
Véronique et Davina.
Et ce qui était important dans les années 80, c'est surtout se faire remarquer, quoi. Hein. Donc, que ça soit au niveau du look, voilà, c'était vraiment important.
Donc, c'est pas forcément être chic, mais se faire remarquer.
Voilà. Donc, on quitte
80.
Un petit peu l'élégance pour être plus dans un côté très, très looké, très, et c'est aussi d'ailleurs l'époque, les années 80, de Naomi Campbell, Claudia Schiffer, donc qui sont belles, qui sont riches, qui sont évidemment mannequins. Et ce qui est très rigolo, c'est que dans Modes et Travaux, on trouve dans les années 80 aussi une mise en garde par rapport à tous ces mannequins, donc extraordinaires, qui nous ont fait toutes rêver quelque part.
Et
en
tous.
Disant. Tous, pardon, non, moi je suis une femme, Thomas, je suis désolée.
Mais
vous
n'y
pas leur ressembler, Thomas.
Bah,
non,
mais elles vous ont fait rêver.
Ah, oui. Elles vous ont fait rêver aussi, Thomas.
Bah, oui, bien sûr.
Donc, bon. Mais alors, si vous aviez lu Modes et Travaux à l'époque, vous aurez peut-être moins rêvé, parce que Modes et Travaux, justement, mettait un petit peu en garde. On disant attention,
sur la,
ne cédez pas. Oui, non, mais cédez pas aux rêves de ces mannequins. C'est un peu comme la télé-réalité aujourd'hui. Mmh. On dit faites attention, ce que vous voyez à la télé et sur les catwalks, c'est pas forcément la réalité.
Pourtant, il n'y avait pas encore Photoshop.
Il n'y avait pas encore Photoshop. Bah, elles étaient vraiment belles. Hein. Mmh. Je crois que c'est surtout ça.
Dans les années 80, on voit aussi l'arrivée évidemment de la publicité en masse, et évidemment elle arrive dans Modes et Travaux. Dans l'ouvrage que vous publiez aux éditions Solar, il y a une grande planche avec toutes les pubs de l'époque. Il y en a une pour RTL. D'ailleurs, on voit le jeune Michel Drucker, donc qui présentait une émission de 11h à 13h, une nouvelle grande émission qui fait jouer, rire et chanter toute la France. C'est une des nombreuses publicités.
Il y avait encore des patrons qu'on pouvait détacher.
Alors, les patrons ne sont pas... Non, ont disparu, en fait, il n'y a pas très très longtemps. On les a... Moi, quand je suis arrivée, moi, j'ai pris Modes et Travaux en 2005. Mmh. Donc, en 2005, on avait encore des patrons. On a dû les abandonner, je crois, en 2008, 2009, 2010. Puisque 2010, ça a été une vraie... pour nous, ça a été une très belle histoire dans la mesure où Modes et Travaux a reçu 2 ans de suite le prix pour la meilleure progression de la presse féminine. Et ce qui est extraordinaire, c'est justement dans cette période d'internet, de tablette, de multimédia, etc., un magazine comme celui-là reçoit le prix pour la meilleure progression de la presse féminine.
Mais pourtant, avec la crise économique, et malheureusement on est dedans depuis plus de 6 ans, on a besoin des patrons, on a besoin de faire
tout nous-mêmes.
Mais ça revient, et je pense que ça a fait le succès justement en 2010-2011, quand ce prix nous a été décerné, ça a fait le succès de Modes et Travaux. Parce que nous, finalement,
on peut les commander.
Donc oui, on peut les commander, bien sûr.
Ah d'accord, donc on les repère dans le magazine.
Voilà,
et puis,
tout à fait.
On les commande pour le prix d'un timbre.
Parce que pour le réveillon du 31,
vous n'avez rien à vous mettre. Je veux voir ça.
Il vous reste 15 jours.
Oui, il faut se dépêcher. Merci beaucoup à vous, Patricia Wagner. Merci.
Merci à vous.
Publiez Modes et Travaux, une histoire de la femme française aux éditions Solar.
Vous écoutez RTL.